Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute de Radio Vatican. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de notre programme. L'espérance n'est pas un vain mot, c'est une certitude parce qu'elle est fondée sur la fidélité de Dieu à ses promesses. Ce sont les mots du pape François lors de l'audience générale tenue mercredi 11 décembre en salle Paul VI au Vatican. Le pape qui a conclu au cours de cette audience son cycle de catéchèses sur l'esprit et l'Église. Pour l'actualité de l'Église en Afrique, nous serons au Togo pour évoquer le pèlerinage de l'archidiocèse de Lomé qui a eu lieu le 8 décembre à Cuvier. Et au Tchad, où les enfants du mouvement d'apostolat Midad du diocèse de Doba ont célébré dimanche 8 décembre le 52e anniversaire d'existence de leur mouvement. Après l'actualité sociopolitique en Afrique, nous reviendrons sur le 2e congrès eucharistique national qui s'est tenu du 4 au 8 décembre dans le diocèse de Butare au Rwanda, dans le cadre des festivités conduisant au double jubilé de 2025 et celui des 125 ans de l'évangélisation du pays. Monseigneur Vincent Arolimana, évêque chargé de l'organisation de ce congrès eucharistique national, nous parlera notamment de la lettre pastorale de la conférence épiscopale rwandaise adressée à cette occasion aux fidèles catholiques. Et nous terminerons cette édition avec le père jésuite Jacques Haas, professeur émérite de l'université de Leuven et collaborateur du GIRES, le service jésuite des réfugiés. Il nous parlera de cette conférence sur la réconciliation qui a lieu ce jeudi 12 décembre.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niamier.
L'espérance n'est pas un vain mot, ni un vague souhait que les choses aillent bien. Et c'est une certitude parce qu'elle est fondée sur la fidélité de Dieu à ses promesses. C'est ce qu'a affirmé le pape François mercredi dans sa catéchèse à l'audience générale tenue en salle Paul VI. C'est pourquoi le chrétien ne peut se contenter d'avoir de l'espérance, il doit aussi la faire rayonner, a-t-il exhorté. Augustin Asta.
L'invocation avait un fond que aujourd'hui dirions scatologique.
Achevant aujourd'hui son cycle de catéchèses sur l'esprit et l'Église, François a expliqué que l'appel au Christ ressuscité à caractère eschatologique exprime l'attente ardente de son retour à la parousie. Et aujourd'hui encore, affirme-t-il, l'Église le démontre à chaque messe, car animée par l'Esprit, elle n'attend pas seulement son retour final, mais sa venue quotidienne dans sa situation présente et pèlerine. Cet appel de l'Église est aussi comme un appel à l'Esprit-Saint, puisque précise le pape, le Christ et l'Esprit-Saint sont inséparables dans l'économie du salut.
Christ et l'Esprit sont inséparables anche nell'economia della salvezza.
C'est l'Esprit qui est la source jaillissante de notre espérance, indique le souverain pontife, qui rappelle ensuite que cette espérance est une vertu théologale qui n'est aucunement en mouvement, mais plutôt une certitude fondée sur la fidélité de Dieu à ses promesses.
Il cristiano non può accontentarsi di avere speranza, deve anche irradiare speranza.
Avant de conclure cette audience générale, le pape est revenu sur l'actualité de la Syrie, alors que le pays traverse une phase historique après la chute de Bachar al-Assad et la prise du pouvoir par le groupe d'islamistes radicaux. « J'y suis chaque jour ce qui se passe en Syrie à un moment très délicat de son histoire », a fait savoir le pape, espérant que l'on parvienne à une solution politique qui, sans conflit ni division supplémentaire, favorisera de manière responsable la stabilité et l'unité du pays. Le souverain pontife qui a ajouté « prier pour que le peuple syrien puisse vivre en paix et en sécurité sur la terre bien-aimée et que les différentes religions puissent marcher ensemble dans l'amitié et le respect mutuel pour le bien de cette nation affligée par tant d'années de guerre ». Et bien avant l'audience générale, le pape avait reçu les participants au premier Human Economic Forum qui se tient à Rome ces jours-ci. Le regard doit toujours se poser sur l'homme dans toutes ses dimensions pour lutter contre la pauvreté, rendre leur dignité aux exclus, prendre soin de la maison commune, a exhorté le Saint-Père. L'actualité de l'Église en Afrique nous conduit tout d'abord au Togo, où l'archidiocèse de Lomé a organisé dimanche 8 décembre, en la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, un pèlerinage à Cuvier. Le compte rendu de Gustave Wam.
Des milliers de fidèles de l'archidiocèse de Lomé ont fait le déplacement de Kovié, un village dans le canton de Mishintové, à environ 30 km au nord-est de Lomé, pour vivre le pèlerinage diocésain placé sous le thème « Marie, signe d'espérance certaine et de consolidation pour le peuple de Dieu en pèlerinage ». L'administrateur apostolique de l'archidiocèse de Lomé, actuel évêque d'Aného, Monseigneur Isaac Jog Gaglo, a invité le peuple de Dieu à la consolidation et à la conversion profonde ce dimanche 8 décembre à la messe conclusive de ce 27e pèlerinage diocésain au sanctuaire marial Notre-Dame des Douleurs.
À l'écoute de Marie, je vous invite à avancer ensemble en confiance et dans l'humilité pour un archidiocèse apaisé. Voilà pourquoi, lorsque le prophète Baruch annonce des jours nouveaux pour le peuple de l'ancienne alliance, c'est comme si on nous demande aujourd'hui de laisser s'en aller le temps des angoisses, celui des interrogations, pour entrer dans son temps de l'Avent.
Une série d'activités spirituelles ont meublé ce pèlerinage, notamment la messe en l'honneur de Marie, Notre-Dame de l'Espérance, l'adoration du Très-Saint-Sacrement, le chapelet et la méditation des sept douleurs de la Vierge Marie. Gustave Ouam, Dapan pour Radio Vatican.
Les enfants de Kemkogi du mouvement d'apostolat Midad du diocèse de Doba au Tchad ont célébré le dimanche 8 décembre les 52 ans d'existence de ce mouvement dans leur diocèse. Une célébration qui intervient dans un contexte bien difficile pour de nombreux enfants dans le pays. Edouard Takadji nous en dit plus.
Une célébration qui intervient dans un contexte où, sur le terrain, les enfants du diocèse de Doba, tout comme ceux d'autres diocèses, font face à d'énormes difficultés. Nombre d'entre eux n'ont pas droit à une éducation de qualité ou encore aux soins et à une alimentation digne. Certaines sont exploitées comme enfants bouviers ou domestiques et subissent au quotidien des multiples violences. Pour le coordinateur diocésain Rodrigue Ndiekombe, cette situation ne doit pas empêcher les enfants à venir au mouvement et partager leur quotidien avec les autres.
Je leur demande de venir dans ce mouvement car c'est un mouvement qui les éduque. Ce n'est pas un mouvement qui essaye de détruire les enfants, mais c'est pour les aider à devenir des hommes intègres demain, à devenir des responsables, à prendre la parole sans avoir peur devant le public. C'est un mouvement qui les transforme, qui les forme. Alors nous invitons ces enfants-là à venir à s'adhérer dans ce mouvement qui est un mouvement d'éducation et d'évangélisation.
Il a profité de cette occasion pour inviter les parents à créer des cadres d'épanouissement et d'éducation à leur progéniture.
Laisser ces enfants-là venir, s'associer avec les autres, s'unir avec les autres, partager leur vécu, les bons et les mauvais moments, ils partagent ensemble et ensemble ils essayent de trouver une solution. Avec les enfants aussi, le monde se développe, donc ça les aide à se former, ça les aide à se transformer, ça les transforme dans beaucoup de domaines qui peuvent leur aider dans leur vie active, dans leur vie sociale et même religieuse et aussi à l'école. Ce mouvement essaye d'apporter quelques pistes pour aider ces enfants.
Edouard Takadji Ndjamena, Radio Vatican.
Passons à présent à l'actualité sociopolitique sur le continent. Au moins 11 millions de Malgaches étaient aux urnes mercredi pour les élections municipales. Quelques tensions ont émaillé l'ouverture des bureaux de vote. De manière générale, l'ouverture du scrutin s'est déroulée dans le calme à l'échelle du territoire à 100 heures, a déclaré l'Observatoire national Safidi, qui a déployé plus de 1700 observateurs sur l'île de l'océan Indien. En Somalie, des affrontements ont opposé mercredi l'armée régulière aux forces loyales aux autorités de la région méridionale semi-autonome du Jubaland, a indiqué le gouvernement et des responsables militaires somaliens. Ces tensions se sont accrues depuis la réélection d'Ahmed Madobe au poste de président régional pour un troisième mandat, le processus ayant été jugé illégal par le gouvernement central, qui estime qu'Ahmed Madobe n'était plus éligible car il avait déjà effectué le maximum de deux mandats prévus par la Constitution. Amnesty International a accusé dans un rapport publié mercredi des hauts responsables des forces armées de la République démocratique du Congo de possibles crimes contre l'humanité lors du massacre d'au moins 56 personnes à Goma en 2023. Selon l'ONG, les forces de sécurité congolaises se sont livrées à une folie meurtrière en ouvrant le feu sur des manifestants le 30 août 2023 à Goma, capitale de la province du Nord Kivu, en proie à des violences par des groupes armés. Au Rwanda, le deuxième congrès eucharistique national s'est tenu du 4 au 8 décembre dans le diocèse de Butare. S'inscrivant au nombre des activités conduisant à la célébration du double jubilé de 2025 et celui des 125 ans de l'évangélisation du pays, ce congrès eucharistique a été l'occasion d'exhorter tous les fidèles catholiques à revenir au Christ dont le pardon, la réconciliation, la fraternité et la paix, a fait savoir à Mgr Vincent Harolimana, évêque de Rwenguéri et chargé de l'organisation de ce congrès eucharistique national qui, bien avant, revient sur la lettre pastorale de la conférence épiscopale rwandaise adressée à cette occasion aux fidèles catholiques.
Cette lettre comporte quatre parties importantes. L'explication du jubilé, un moment d'action de grâce, un moment où nous devons vivre cette miséricorde divine et puis revenir vraiment sur Jésus-Christ, source d'espérance, source de fraternité et de paix. Et la troisième partie parle des fruits du travail missionnaire au Rwanda au cours de ces 125 ans écoulés. C'est très important, l'engagement de l'Église catholique au Rwanda dans le secteur de l'engagement, de l'éducation, santé et développement intégral humain. La quatrième partie parle de l'urgence de la conversion. Nous avons donné un message dans ce sens, invitation à la conversion pour que nous puissions vivre les années à venir et vraiment réconcilier avec Dieu et réconcilier entre nous.
Quel est le message qui découle de ce congrès eucharistique national pour le Rwanda quand on sait que le pays a vécu des moments difficiles, des moments de génocide?
Ce que nous pouvons retenir, c'est que nous, pasteurs de l'Église catholique au Rwanda, nous voulons que les chrétiens de l'Église catholique au Rwanda reviennent à Jésus-Christ. Regarder, fixer le regard au Christ et puis être en communion avec toute l'Église, tourner vers l'espérance et puis la fraternité qui guérira notre monde, la paix que nous devons construire dans notre vie de tous les jours, être les artisans de paix. C'est ce message que nous voulons donner aux fidèles de l'Église catholique au Rwanda. Nous invitons donc tous les fidèles, toute l'Église catholique au Rwanda, retrouver dans le Christ cette source intarissable d'espérance dans un monde avec beaucoup de problèmes, avec beaucoup de défis. Reconnaître que nous sommes tous enfants du même Père et frères et sœurs entre nous est pour nous une voie de sortie dans cette histoire récente qui a connu les divisions, les guerres, avec le génocide. Alors nous voulons que nous retrouvions dans le Christ cette source de fraternité et de paix, surtout dans notre sous-région des Grands Lacs, où nous avons des guerres, puis des situations de tension entre pays. Retrouver dans le Christ cette source de paix, la paix, qui doit nous marquer.
Mgr Vincent Harolimana, évêque de Rwenguéri, il était chargé de l'organisation du deuxième congrès eucharistique national au Rwanda. Notre mission de réconciliation, explorer les chemins de réponse à la violence et au mal. C'est le thème de la rencontre qu'organise ce jeudi 12 décembre le service jésuite des réfugiés, JRS. Pour explorer les voies du pardon de personnes aux histoires opposées, interviendront Agnese Moro, fille d'Aldo Moro, figure politique italienne tragiquement assassinée par la Brigade Rouge, et Adriana Faranda, ancienne membre de cette Brigade Rouge italienne. Le jésuite belge Jacques Haas, professeur émérite à l'Université de Leuven et collaborateur du JRS, nous présente cet événement.
Le service jésuite aux réfugiés est en train de approfondir sa propre mission et sa propre identité. Et ça se fait autour du concept, mais pas seulement le concept, autour de la réalité de la réconciliation. La mission de la réconciliation, comment le service jésuite aux réfugiés peut-elle lui donner corps? Et cette identité particulière est basée sur des traditions dans lesquelles le service jésuite aux réfugiés tient ses origines. Donc, c'est les traditions chrétiennes en partie, et puis aussi les traditions jésuites. Mais le service jésuite réfugié ne se contient pas par cette tradition, il va plus loin.
Elle veut élargir.
Elle veut élargir. Hein. Okay. Et donc, il y a dans la tradition chrétienne, il y a l'importance très grande donnée à la réconciliation, comme on le voit dans la deuxième lettre aux Corinthiens de saint Paul. Mais il y a chez les jésuites aussi cette tradition de l'importance à la réconciliation qui a été accentuée encore une fois dans les priorités apostoliques universelles qui sont comme notre mission pour les années à venir. Et la réconciliation dans les textes jésuites tient une phrase qui m'est très chère, et réconcilier ceux qui ont été séparés. Donc le point de vue est que nous appartenons les uns aux autres dans cette grande unique création. Et que dans cette appartenance les uns aux autres, il y a eu des brisures. Nous nous sommes séparés à certains endroits. Nous nous sommes tournés en ennemis. Nous nous sommes séparés même de nous-mêmes et de Dieu.
Donc il faut refaire l'unité.
Il faut retrouver cette appartenance à la création, cette appartenance à soi-même, l'appartenance à Dieu, l'appartenance les uns aux autres et l'appartenance
à la communauté.
Et donc il faut transcender les conflits qui existent, qui sont une façon d'approfondir, en fin de compte, cette co-appartenance et cette co-créativité que nous tenons avec Dieu. C'est aussi l'effort, c'est ça qui est très intéressant en ce moment, parce que je crois que on commence à comprendre très bien l'importance de cette réconciliation, c'est aussi l'effort de la synodalité. La synodalité veut dire on est en route ensemble.
On marche ensemble.
Oui, on marche ensemble. Même les victimes et ceux, les perpétreurs.
Les bourreaux.
Oui. Donc, on est en route ensemble. On est en train de créer un monde futur. Alors, comment le faire de façon réconciliée? Oui. Et pour un monde soutenable à large place.
Vous venez de parler de transcender les conflits. C'est très important. Et le thème que cet événement poursuit, c'est notre mission de réconciliation, explorer les chemins des réponses à la violence et au mal. Pourquoi ce thème?
Un des aspects à côté de l'aspect de la conversation, c'est ce qu'Elias Lopez commence à appeler la réconciliation préventive, c'est-à-dire en pensant aux futures générations, que voulons-nous donner aux futures générations pour qu'elles puissent vivre en paix?
Ça sera un grand événement tel que vous en parlez. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les axes majeurs que vous allez poursuivre?
Donc ce que nous allons essayer de faire, c'est avec une trentaine de personnes, hein, c'est de découvrir le cheminement intérieur nécessaire à la réconciliation, le cheminement d'un groupe qui s'engage en fonction de la réconciliation, afin de pouvoir articuler cette mission de réconciliation dans le monde, au service des réfugiés, au service des migrants, mais aussi au service des peuples en guerre, hein, et au service de tant d'autres choses aussi, des familles où il y a des conflits profonds.
Et quelle est l'activité phare de cet événement? Le 12 décembre, il y aura des invités et des marques. Pouvez-vous nous en parler un peu plus?
Oui, c'est une activité phare, mais il faut voir cette activité dans le contexte d'un cheminement de ces 30 personnes. Et nous avons un témoignage, si vous voulez, ce jeudi, nous aurons un témoignage de la fille d'Aldo Moro, Agnese Moro, et d'une participante des Brigades Rouges à ce temps-là, Adriana Faranda.
Et qui ça sont sera entrés. Des témoignages personnels.
Oui, ce sont des témoignages personnels qui nous invitent à entrer dans nos propres narratives pour découvrir ce que peut signifier et comment peut s'articuler un moment de réconciliation. Donc ce sont deux personnes qui se trouvent à l'opposé les unes des autres dans un conflit et qui ont commencé à se rencontrer afin d'articuler un mouvement de pardon, afin d'articuler un moment de réconciliation et afin de découvrir comment un effet tellement brutal que la mort et l'assassinat de quelqu'un puisse quand même encore porter fruit à large terme.
Le père Jacques Haas, jésuite belge, professeur émérite à l'université de Leuven et collaborateur du service jésuite des réfugiés. Il était interrogé par Stanislas Kambashi.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Et voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. À très bientôt.